Bonjour. Effectivement, comme Daniela l'a dit, j'ai quelques années de conversion au compteur. J'ai quelques années de ministère également au compteur. Ça fait plus de deux décennies effectivement que je suis pasteur dans cette église de l'Abri à La Neuville. Quand je dis ça en général, les gens me disent « Oh, et t'as l'intention de continuer ?» et ça m'a fait plaisir effectivement d'entendre ces chants, parce que ça faisait un bon moment que j'avais plus entendu ces chants qui ont bercé ma jeunesse, hein. Je me suis converti à l'âge de 18 ans, et puis donc voilà, on chantait ça, et puis après il y a d'autres chants qui viennent, et puis ceux-là, ben, on peut passer sous la pile, et ça fait du bien. Merci beaucoup, soyez bénis aussi dans ce ministère de la louange. Merci également d'avoir introduit avec ces chants un peu le message, ce que j'aurais à cœur de vous partager ce matin. C'est un peu une réflexion, un témoignage de quelque chose que j'ai vécu cet été, aussi en lien un petit peu avec mon parcours justement de ces 22 ans de ministère, des 54 ans que j'ai aujourd'hui, des questions qui m'habitent. On se pose régulièrement des questions, je ne sais pas si vous vous posez des questions de temps en temps, où on se retourne un petit peu en arrière, on regarde ce qu'on a fait, et puis ce vers quoi on va, et puis qu'est-ce qu'on a envie de faire, enfin voilà un peu ces questions existentielles. Je pense que c'est une bonne chose également, et donc c'est un peu ce qui m'habite depuis un certain temps. Le Covid également a mis un petit peu un coup d'accélérateur à tout cela aussi, et donc voilà, ça m'a permis d'avancer. Et puis ça sera aussi finalement un peu une réflexion par rapport à ce temps de l'Avent dans lequel on entre, voilà, sur ce qu'on désire y vivre finalement, de quoi est-ce qu'on va le remplir et puis vers quoi il nous amène. Je pense que c'est parfois un peu compliqué aussi aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous êtes prêts à entendre un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, et j'aimerais vous lire à partir du verset 4. Jésus leur répondit, par rapport donc à la question des signes qui vont annoncer la fin du monde, la venue de Christ et la fin du monde. Et Jésus leur répondit au verset 4, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. » Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Christ » et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Voilà. Quoi de plus motivant qu'un petit message annonçant la fin des temps ? Surtout qu'actuellement, c'est quand même assez tendance et on ne va pas se mentir, on est quand même dans un temps assez particulier, assez anxiogène. Tellement de bruits qui vont dans tous les sens, qui génèrent tellement de questions, d'anxiété. Tellement de fronts qui se durcissent également entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui ne savent pas. Et puis on vous sollicite, on aimerait que vous preniez position. Et ça devient clivant. On vit dans un monde et ça vous le savez probablement parce que vous l'avez expérimenté, qui se transforme, qui évolue, mais qui évolue, c'est mon impression aussi, de plus en plus vite. On a de la peine à suivre également. Où peut-on se fixer? Où faut-il regarder? Qui faut-il croire? Comment continuer pour avancer? Comment être serein dans le monde dans lequel on est? Comment garder la tête hors de l'eau? Peut-être que c'est des questions qui vous habitent aussi, qui vous inquiètent. Ou peut-être que vous êtes inquiété pour vos enfants, vos petits-enfants aussi. Je discutais l'autre jour avec quelques personnes aussi qui me parlaient par rapport à la crise climatique, de leur angoisse, vraiment, et de leur responsabilité, en se disant, mais est-ce qu'on va laisser ce monde-là à nos enfants, nos petits-enfants? Alors ce matin, je suis là pour vous donner la solution. Oh, je plaisante. Le texte que je viens de vous lire est un grand classique dans ces passages eschatologiques de ceux qui annoncent la fin des temps. En résumé, il dit « on va vers la fin » et ça ne va pas être simple. Mais Dieu est le maître de l'histoire et il conduit toutes choses. Et les chants qu'on a chantés tout à l'heure aussi, je crois, soulignaient bien cet aspect-là aussi. Rien de ce qui se passe aujourd'hui ne lui est étranger. Même si nous, on ne sait pas de quoi notre lendemain sera fait, on court qu'en Suisse, ça va encore, hein, on a un certain nombre de sécurité, mais ça pourrait changer très rapidement. Dieu connaît toutes choses. Je pense que ça, c'est déjà une bonne chose sur laquelle on peut s'appuyer. J'aimerais vous inviter ce matin, non pas tellement à interpréter ce passage, ces versets, mais plutôt à se concentrer sur ce qui nous habite. J'aimerais vous inviter, pour le dire autrement, à regarder d'où nous regardons ce passage. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Où nous nous situons pour voir, pour comprendre ce qui se passe? Et pour le faire, j'aimerais vous parler d'un périple que j'ai vécu. Un temps sabbatique que j'ai demandé à l'Église, que j'ai vécu cet été, 2 mois de temps sabbatique, et en particulier, j'ai eu l'occasion de vivre la traversée des Alpes que j'ai fait à pied, en solitaire. Alors, comme je l'ai dit, j'ai 54 ans, et donc c'est un âge, pour ceux qui ont passé par là peut-être, où on se pose des questions, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Et autour de moi, ça bouge beaucoup aussi. Ça a bougé, dans notre famille, avec nos enfants qui grandissent, qui quittent la maison. Donc petit à petit, on se retrouve juste les deux avec Lysiane. Ça bouge aussi beaucoup dans l'Église, avec un changement au niveau des anciens, de nouvelles personnes, des jeunes qui arrivent. Le désir aussi de la communauté de renouveler la vision, de renouveler également les ministères. Et cette question, effectivement, de Didier, qui est là depuis 20 ans et qu'est-ce qu'on fait avec lui? Non, il y a eu beaucoup de bienveillance, et je suis reconnaissant de ça aussi, on a pu cheminer, mais c'est vrai que voilà, cette réflexion-là, au niveau de la communauté, a été aussi ma réflexion, et m'a mis en route. Et concrètement, effectivement, ça s'est traduit par ce voyage. Comment est-ce que j'allais réagir par rapport à tous ces changements-là? Et c'est une question que j'aimerais également vous poser. Comment est-ce que vous réagissez par rapport aux changements? Est-ce que ça vous fait peur et vous vous retranchez finalement dans les sécurités, dans les certitudes qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, les miennes également? Ou bien est-ce qu'on ose l'ouverture? Est-ce qu'on se dit, ok, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent, mais Seigneur, toi tu es aux commandes et j'ose l'ouverture? C'est une vraie question pour moi, parce que je ne suis pas d'un naturel qui ose finalement entreprendre plein de choses. Je suis plutôt prudent, je dois dire, dans ma nature. Je pense que vous pourrez poser la question à mon épouse, mais je pense que je ne suis pas quelqu'un qui fonce comme ça. Je ne suis pas un grand fan des bouleversements, donc ça a remis en question beaucoup de choses chez moi. Et je pense que c'est une vraie question aussi pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous met en route ? Je vais vous donner quelques citations durant aussi mon partage ici ce matin. Une première citation qui dit on ne peut pas coller des ailes sur une chenille et appeler ça un papillon. Le changement doit venir de l'intérieur. Et je pense que c'est vrai aussi en tant qu'enfant de Dieu. Le changement doit venir de l'intérieur. Et ce changement vient de l'intérieur parce que le Saint-Esprit habite en nous et qu'il provoque ce changement. On doit se laisser imprégner par le Saint-Esprit. Et je pense que c'est aussi un défi. Parce qu'on se laisse imprégner par beaucoup de choses, mais est-ce qu'on se laisse réellement imprégner par le Saint-Esprit, par Dieu ? Je pense que si on arrive à entrer là-dedans, à entendre cette petite voix aussi, c'est le début d'un changement, d'une croissance. J'ai vécu cette imprégnation à travers ces 2 mois de temps sabbatique et cette marche. Pendant 3 semaines, je suis parti avec mon sac à dos de Sargans, dans le canton de Saint-Gall, donc tout près de la frontière, pour aller jusqu'à Montreux. Ça fait une traversée des Alpes d'est en ouest. Ça représente 390 km environ, c'est 700 km effort. C'est 14 cols à passer, c'est 23 000 mètres de dénivelé positif, c'est 24 000 mètres de dénivelé négatif. Donc c'est quand même un certain nombre d'efforts et je ne m'étais pas vraiment préparé parce que je ne suis pas Mike Horn. Même si on a le même âge, on n'a pas du tout la même condition et c'est vrai que je ne m'étais pas vraiment préparé à ça. Mais j'ai été surpris de voir que quand on se met en route, finalement, on a un certain nombre de ressources qui sont là, tout à coup, qui apparaissent. Et Dieu nous a bien fait. Et je crois qu'on a des ressources qui sont là et qui ne sont pas toujours, conscientes et qu'on découvre finalement quand on se retrouve confronté à quelque chose. Un jour, j'ai eu une étape particulièrement difficile, de 12 heures de marche, donc j'ai eu la bonne idée de mettre 2 étapes en une et je me suis retrouvé avec 12 heures de marche et vraiment ça a été très compliqué. J'ai mes souliers qui m'ont lâché en plus ce jour-là, je me suis retrouvé sur une arête dans le brouillard, il ne faisait pas beau, j'étais tout seul, donc vraiment quelque chose de difficile, mais un pas après l'autre, j'ai avancé, un pas après l'autre, je suis arrivé à Meiringen, et puis là, j'ai des amis, un couple avec qui j'avais sympathisé, qui m'attendait, qui m'avait réservé une place au restaurant, avec qui j'ai pu partager un repas aussi, et puis où j'ai pu voir cette fidélité de Dieu. Mais dans le trajet, ça a été difficile. Et ça me fait penser à ce verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et je crois qu'on est appelé à persévérer. Et je ne suis pas forcément non plus quelqu'un de très persévérant. Mais de réaliser ça dans cette marche, que dans la persévérance, il y avait une fidélité, qu'un pas après l'autre, c'était possible et qu'on arrivait. Lisiane m'a écrit une lettre avant de partir, qu'elle m'a donnée, que j'ai ouverte en route. Et dedans, il y avait une citation que j'avais donnée à ma fille il y a quelques années auparavant, alors qu'elle traversait des moments difficiles. J'avais donné cette citation. « C'est en s'éloignant de tout qu'on se rapproche de l'essentiel. » Elle a eu la bonne idée de le tatouer sur sa cuisse en khmer, alors qu'elle était au Cambodge. Elle a tatoué cette phrase-là sur sa cuisse. Alors moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose qui m'a habité. En s'éloignant de tout, on se rapproche de l'essentiel. Et il y a tellement de choses autour de nous. On a tellement de choses qui nous accompagnent dans notre vie quotidienne. Si vous faites la liste une fois de tout ce qui vous environne, des activités, de votre emploi du temps, des relations, de vos engagements, de votre travail, il y a tellement de choses. S'éloigner un petit peu. Alors moi, je ne me suis pas éloigné de tout, mais s'éloigner un petit peu pour se rapprocher de l'essentiel. Je pense que c'est une des clés qui nous permet justement de pouvoir vivre les événements dans lesquels nous sommes aujourd'hui de manière sereine. Parce que l'essentiel, c'est Dieu. Et je pense que pour arriver à nous approcher de Dieu, vraiment, il faut que nous puissions vivre un certain dépouillement. Parce qu'il y a tellement de bruit dans nos vies qu'on n'entend plus Dieu parfois. J'aime bien une autre citation de Théodore Monod, qui est un humaniste, scientifique, chrétien, qui a parcouru le monde et qui a dit « Je ne peux m'empêcher de penser que la foi est une recherche et qu'elle doit nous mettre en partance, faire de nous des marcheurs. Dieu ne se laisse pas toucher facilement. Il faut avoir une âme de nomade pour trouver Dieu. » Se mettre en route, se dépouiller, avoir une âme de nomade pour trouver Dieu. Alors je suis parti avec 17 kilos sur le dos et c'était déjà passablement lourd. Première journée, une première montée, une première étape assez facile, 13 kilomètres, 800 mètres de dénivelé seulement. Le Seigneur avait été bon, il m'a évité d'avoir la pluie. Je suis arrivé à l'hôtel juste avant qu'il pleuve. J'ai pu passer une bonne nuit à l'abri. Et j'ai démarré le deuxième jour avec une étape de 22 km. Là, c'était 8 heures de marche. C'était 1400 mètres de montée, 1400 de descente. Et ça a été un peu plus compliqué. Je n'ai pas évité la pluie ce jour-là. Et j'ai dû camper, faire du camping sauvage dans une forêt. Et en plus, j'avais réussi à perdre mon bouchon de gourde dans le trajet. Le profil de cette journée-là ne ressemblait pas au profil de la journée précédente, où j'avais loué le Seigneur, où j'avais dit « Merci Père, parce que tu as été là ». Et là, je m'étais ramassé la pluie, j'étais fatigué, j'avais perdu mon bouchon. Où est-ce que tu es, Seigneur? Où est-ce qu'il est, le Seigneur, lorsque les choses vont moins bien? Quand ça ne se passe pas tout à fait comme on avait imaginé. Et il a été là. Il a été là dans juste un clin d'œil de sa part, où je suis revenu, après avoir mangé, je suis revenu au camping, et où trois jeunes étaient là, et sur la table, sur leur table, il y avait le bouchon de ma gourde qu'ils avaient retrouvé. Le Seigneur a été là, mais il n'a pas marché à ma place, il ne m'a pas évité d'être fatigué, d'avoir des problèmes, de me ramasser des seaux d'eau sur la tête. Voilà, mais il a été là, sur ce chemin. Dieu ne transforme pas toujours nos vies, mais il habite nos réalités. Et il est là et il fait route avec nous. Et le troisième jour, j'ai enlevé 2,5 kg de bagages parce que je me suis dit, si j'allais faire 20 jours de balade avec 17 kilos sur le dos, ça n'allait pas aller, quoi. Se dépouiller. Enlever des choses dont on n'a pas besoin. Et j'avais déjà pris l'essentiel, qu'est-ce qui était vraiment essentiel? Et je vous garantis, j'ai encore réussi à enlever pas mal de choses, et ça ne m'a jamais manqué. Dans nos vies, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Que faut-il enlever encore? En partant, une amie m'a donné un petit sachet avec des citations, c'est ces citations que je viens de vous lire là maintenant, avec des versets bibliques et des citations d'auteurs, d'écrivains, et j'en ai tiré une par jour, que j'ai collée dans un petit carnet, où je notais un peu mes réflexions. Une de ces citations était de Nicolas Barrault, qui dit « Parfois on s'en va pour aller quelque part ». On a souvent des buts dans nos vies. Quand on se met en route, c'est pour aller quelque part, parce qu'on veut aller dans un but, vers un but. Et parfois, on s'en va pour marcher et marcher encore, jusqu'à ce que le brouillard se dissipe, que le désespoir s'atténue, ou qu'on arrive au bout d'une pensée. Marcher pour finalement un peu perdre du temps. Marcher pour dissiper des questions. Marcher sans savoir vraiment où on va. Et ça m'a fait penser à ce texte de Genèse 12:1. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. » Moi, j'aime bien savoir où je vais avant de me mettre en route. Et avec le Seigneur, c'est un petit peu la même chose. On aimerait bien savoir où il veut nous emmener avant de nous mettre en route. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Abraham se met en route sans savoir où il va. « Mets-toi en route et alors je te montrerai le pays où tu pourras t'installer. Mets-toi en route et je vais te conduire. » Ça change un petit peu la donne de notre engagement. On aime bien les sécurités et je suis quelqu'un qui aime bien les sécurités. Alors Seigneur, ok, j'accepte de ne pas tout connaître. J'accepte d'être dans l'incertitude. J'accepte de croire que tu vas me montrer quelque chose. Et ce voyage en solitaire a été pour moi une révélation aussi à ce niveau-là. Être confronté à ses limites, être confronté à la solitude, m'a amené à me connecter à Dieu, à être en relation avec lui d'une autre manière, à réinvestir aussi le moment présent. On vit dans un monde qui nous pousse sans arrêt vers le mieux, vers le différent, vers le nouveau. On est encouragé à l'insatisfaction permanente. Et on n'arrive plus à être connecté dans le moment présent parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre, de mieux qu'il nous faut avoir. On vit dans ce monde-là et je pense que notre foi finalement est aussi teintée de cette insatisfaction permanente. Le présent n'a plus de saveur parce qu'on est soit dans le passé, soit dans le futur. Recherchez la simplicité de ce moment présent. Alors je ne veux pas entrer dans le débat, hein, voilà, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'assez polémique aussi, mais je trouve quand même assez interpellant le message. Faites-vous vacciner pour que le citoyen puisse à nouveau consommer. Il y a quand même un petit peu de ça, hein, il faut que l'économie redémarre. Il faut faire tourner la machine, il y a une baisse de la consommation, il faut une union sacrée pour que tout le monde se mette à consommer des vacances, des produits, des restaurants, des spectacles, etc. etc. On est quand même un petit peu formaté et conditionné à cela. Hein. Point de salut en dehors de la croissance. Pendant mon périple de 3 semaines, j'ai passé beaucoup de temps à être concentré sur le moment présent. Ça m'a un peu dérangé à un moment donné parce que dans mes marches, je commençais à marcher vers 8 heures, général le matin, pour une marche d'environ 8 heures de moyenne. Finalement, j'ai remarqué que je passais beaucoup de temps à être concentré sur le chemin, à faire attention où je mettais mes pieds et à ne pas réfléchir à autre chose que ça. Et ça m'a un peu dérangé, je me suis dit, mais tu n'as pas 3 semaines où tu vas juste te concentrer sur tes pieds et regarder où tu les mets, quoi. Et une personne a partagé quelque chose qui m'a encouragé, qui m'a interpellé. Elle disait, mais tu dois, quand tu marches, être concentré justement sur le sentier, faire attention où tu mets les pieds, parce que c'est vrai qu'à certains endroits, c'est quand même un petit peu délicat. Si tu tombes, t'es mal. Ton esprit est concentré sur une seule chose, sur le moment présent. Justement. Et ça me semblait important de réinvestir ce présent, de ne pas avoir son esprit qui part finalement dans toutes les directions, qui se préoccupe de plein de choses, qui réfléchit à ce qu'il va faire dans une heure. Peut-être que vous êtes en train de faire ça maintenant. Qu'est-ce que je vais faire à manger? Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi s'il fait beau? Toutes ces choses-là hein, qui finalement nous empêchent d'être concentrés sur le moment présent, sur cette expérience méditative du présent, là où Dieu se trouve. Dans Exode 14, 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « Voici ce que te dira aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Je suis. Pas « j'étais » ou « je serai ». Je suis. Et Dieu, finalement, où est-ce qu'on le trouve? Je pense qu'on ne le trouve pas dans le j'étais ou dans le je serai, mais on le trouve dans ce je suis. Pour terminer, j'aimerais vous montrer deux photos, si on arrive à les projeter. Une première, voilà celle-là, exactement. C'est en arrivant à Montreux, au bord du lac, vous avez ce panneau, ces panneaux jaunes que vous connaissez, avec cette citation de Goethe. Tu n'as vraiment été que là où tu as fait le chemin à pied. Alors moi, j'arrivais. Ça, c'est pour ceux qui partaient en direction de Vaduz. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été une révélation. Alors, d'un point de vue géographique, du paysage, effectivement, on prend le temps de découvrir une région. Et moi, je ne peux que vous encourager à découvrir ce beau pays qu'est la Suisse. Il y a plein de régions que j'ai découvertes pendant mon trek. Mais ça a été vrai aussi d'un point de vue spirituel. Finalement, ce temps que j'ai passé, que j'ai entre guillemets perdu, a été un temps que j'ai redécouvert, que j'ai pu investir avec Dieu. Et je pense que j'ai vraiment été avec Dieu dans ce temps que j'ai fait à pied avec lui, dans ce temps que j'ai perdu, dans ces heures passées à marcher, à prier, à louer le Seigneur. Un jour, je montais sur un alpage pour faire un col et ça avait été compliqué. J'avais commencé tranquillement, puis plus je montais, plus j'arrivais dans le brouillard et je me suis retrouvé dans des névées, dans du brouillard, je ne voyais rien du tout, j'étais tout seul, j'avais de la peine à voir où étaient les panneaux. Et je suis arrivé en haut quand même passablement épuisé. Et en redescendant, je suis tombé sur une croix, juste une simple croix en bois qui était plantée au-dessus d'un monticule. Et ça m'a tellement interpellé, ça m'a tellement touché de voir cette croix après l'effort que j'avais fourni, de comprendre un peu dans mes tripes ce que Jésus avait fait pour moi en donnant sa vie. De faire ce chemin-là. Si je ne l'avais pas roté pendant 5 heures avant, j'aurais pas compris ça, je pense, comme je l'ai compris là, ce jour-là. On veut rentabiliser aujourd'hui les choses. Et même dans l'Église, finalement, on veut rentabiliser nos activités, notre engagement. Et je crois que, et j'aimerais vous inviter vraiment à perdre du temps. Parce que je crois que c'est une occasion magnifique de pouvoir redécouvrir Dieu. On peut montrer la deuxième photo. En partant de Montreux, vous faites environ 200 mètres et vous vous retrouvez en face de ça. À gauche, vous avez un escalator et puis à droite, vous avez les escaliers. Il y a ce choix. Est-ce que je vais prendre la facilité, l'escalator? Où est-ce que je vais prendre les escaliers? Et pendant la Via Alpina que j'ai fait, constamment, je me suis retrouvé en face de funiculaires, de télécabines. Je me disais, ce serait quand même plus simple, un petit télécabine ou un petit funiculaire. Spirituellement aussi, parfois. Peut-être même des fois, je me disais, mais dans l'Église, on aimerait vous encourager en tant que pasteur à vite être avec Dieu, à vite prendre l'escalator. Avec un bon groupe de louanges, par exemple, avec un bon orateur qui va vous booster. Mais peut-être qu'il faut perdre du temps aussi un peu, qu'il faut se fatiguer, qu'il faut le faire seul, prendre les escaliers pour vraiment rencontrer Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'on doit enlever les pasteurs, les orateurs, qu'il ne doit plus y avoir de groupe de louanges. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous met en route? Qu'est-ce qui nous connecte? Qu'est-ce qui nous rapproche de Dieu? En marchant, j'ai rencontré plusieurs fois des gens qui se promenaient avec un parapluie. Quand il pleuvait, ils avaient un parapluie accroché à la sangle du sac et ils se promenaient avec ça. Et je me suis dit, c'est quand même un peu des touristes, quoi. un bon marcheur suisse ne promène pas avec un parapluie en pleine forêt, ou bien il a un cahouet, il a un équipement, mais pas un parapluie. Ça fait quand même, ça fait pas sérieux, quoi. Et un jour, alors que je descendais d'un alpage où il pleuvait, il a plu toute la journée, j'étais fin trempe, de la tête aux pieds, j'ai vu quelqu'un arriver, c'était un Belge en plus, avec un parapluie. Moi, j'étais fin trempe, et lui, il était tout sec. Il avait un petit pull, même pas aussi épais que ça, il avait un petit pull, il avait son parapluie, et il marchait comme ça, quoi. C'était ça la solution. Parce que quand vous avez un parapluie, vous êtes bien à l'aise, vous n'avez pas besoin de mettre un cahouet où vous transpirez autant dedans et vous êtes autant mouillé dedans. Voilà, osez être différent. C'est quelque chose qui m'a interpellé aussi dans ma foi. Osez sortir des sentiers battus. Osez entreprendre des choses peut-être un peu folles pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous demande aujourd'hui pour cette rencontre ? Osez. J'aimerais vous laisser avec ça. Ce point d'où vous êtes, je pense qu'il est important. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui pour regarder ce qui est en train de se passer ? Où est-ce que vous êtes aujourd'hui pour appréhender ce texte de Matthieu 24 ? D'où est-ce que vous regardez ? Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre en route ? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.